Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Pour la première fois depuis 1987, Rome accueille une rencontre organisée par la communauté œcuménique de Thésée, l'occasion pour Benoît XVI de réaffirmer l'engagement irrévocable de l'Église catholique à poursuivre la recherche de chemins de réconciliation pour parvenir à l'unité visible des chrétiens. C'est la une de ce magazine. Et après, l'actualité ne manquait pas, en fin d'émission, les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. Rome à l'heure de Thésée, quelques 40 000 jeunes chrétiens, catholiques, orthodoxes et protestants venus de toute l'Europe ont envahi la ville éternelle pour une nouvelle étape, la 35e du pèlerinage de confiance sur la terre, organisé tous les ans par la communauté œcuménique fondée par Frère Roger en 1940 dans une Europe bouleversée par les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'au 2 janvier, les célébrations alterneront avec les rassemblements et les échanges en paroisse et en famille. La précédente rencontre s'était déroulée à Berlin en 2011. Temps fort de cette édition romaine, la prière avec Benoît XVI ce samedi en début de soirée. Malgré la saison, il a fallu l'organiser en plein air sur la place Saint-Pierre. Les participants étant particulièrement nombreux, Xavier Sartre.
Ils sont âgés de 16 à 35 ans, certains sont affectés par la crise de la dette et de l'emploi, beaucoup viennent d'Europe de l'Est. Ils veulent témoigner de leur foi commune au-delà des murs culturels et confessionnels et découvrir les sources de la confiance en Dieu. C'est le fil conducteur de cette rencontre. Justine est une jeune Française, elle vient de Lille.
C'est vraiment dans le cadre d'un pèlerinage de confiance et c'est vraiment ça qui m'a intéressée. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, qui est marqué par l'individualisme, c'est important de retrouver cette confiance dans l'être humain, dans la foi, dans un rassemblement de jeunes. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Une nécessité partagée par Nicolas. Il est parisien, il se dit touché par les méditations proposées par le prieur de Thésée.
Ce qui me touche dans ce que dit frère Aloïs, c'est la confiance qu'il veut réveiller en nous, la flamme intérieure qu'il veut qu'on recherche, et il veut juste qu'on retrouve une certaine confiance en nous et l'espérance.
Frère Aloïs veut aider les participants à vivre une foi plus personnelle, mais son message s'adresse aussi aux non-croyants, à ceux qui cherchent et qui s'interrogent sur le sens de leur vie. Nicolas.
Moi je fréquente Thésée depuis quelques années déjà et ça fait 3 ans que je fais les rencontres européennes. Mes attentes sont à peu près toujours les mêmes quand je viens à Thésée, c'est retrouver une paix intérieure qui m'a quitté, je cherche à retrouver une certaine confiance, une confiance intérieure que je trouve grâce à l'état d'esprit véhiculé par la pensée de Thésée. J'ai une éducation chrétienne, mais je me suis éloigné de l'Église catholique.
Point d'orgue de la rencontre, la veillée de prière pour la paix le 31 décembre, suivie de la fête des peuples. Frère Aloïs souhaite que l'année 2013 apporte un supplément de solidarité dans le contexte de crise actuelle.
Et Benoît XVI a invité ces jeunes à être co-responsables de l'Église, à œuvrer pour l'unité des chrétiens et pour un monde meilleur, à devenir de petites lumières pour ceux qui les entourent. Parfois, le mal et la souffrance des innocents, leur a-t-il dit, créent en vous le doute et le trouble. Et le oui au Christ peut devenir difficile. Mais ce doute ne fait pas de vous des incroyants. Des paroles qui resteront dans les esprits. De son côté, frère Aloïs a remis au pape un panier de graines de sorgho qui lui ont été données au Rwanda par des jeunes Africains, en espérant qu'elles puissent être semées et fleurir dans les jardins du Vatican. Le reste de l'actualité en France, le secrétaire général de l'enseignement catholique, Éric Delabarre, a adressé une lettre aux chefs d'établissement leur demandant de prendre les initiatives les plus adaptées pour ouvrir le débat sur le mariage homosexuel. Cette initiative a suscité de vives polémiques. Le syndicat d'enseignants du public a dénoncé, je cite, « un discours de pseudo-liberté qui vise de fait à utiliser parents, élèves et personnel des établissements privés comme chair à canon des combats de l'Église catholique ». Fin de citation. Toujours en France, le père François Heuvet est le nouveau rédacteur en chef d'études, la prestigieuse revue des jésuites français, fondée en 1856. Ce physicien âgé de 58 ans, ancien élève de l'école normale supérieure de Cachan et doyen de la faculté de théologie du Centre Sèvres à Paris, succède au père Pierre de Charentenay, qui quitte la France pour les Philippines. Il enseignera à l'université de Manille. Le père Heuvet avait déjà fait partie du comité de rédaction de la revue études entre 1995 et 2004, puis en 2007. Auparavant, il avait notamment contribué à fonder la communauté des jésuites de Moscou au début des années 90. Dans un entretien au quotidien La Croix, le père Heuvet indique qu'il souhaite offrir la contribution de la réflexion chrétienne aux grandes questions qui touchent l'ensemble de la société. Le défi à relever, c'est la présence de la revue sur la toile. En Indonésie, les chrétiens peinent à construire et même à restaurer leur lieu de culte. Le 24 décembre au soir, dans une banlieue de Jakarta, environ 200 fidèles protestants ont été pris à partie par des islamistes alors qu'ils voulaient célébrer un office de Noël sur un terrain où ils ne parviennent pas à construire une église comme ils le souhaiteraient. Une scène semblable s'était déjà produite en mai dernier, le jeudi de l'Ascension. Le pasteur de la communauté a témoigné de la totale inaction de la police face aux islamistes. L'archevêque catholique de Jakarta a lui aussi signalé dans son homélie de Noël combien il était difficile pour les chrétiens d'obtenir des permis de construire des lieux de culte. Nous avons demandé à Régis Anouilh, rédacteur en chef d'Église d'Asie, de nous éclairer sur cette situation. Interrogé par Bernard de Cotigny, il se félicite d'absence de graves violences ou d'attentats lors de ce Noël, mais il reconnaît qu'au niveau local, les églises peinent à faire valoir leurs droits.
On se rappelle qu'en 2000, des attentats avaient fait plusieurs morts, des attentats qui avaient visé la veille de Noël des églises chrétiennes avaient fait de nombreux morts. Là, rien de tel, la police a organisé la sécurité des lieux de culte, donc il y a une certaine tranquillité finalement à vivre sa foi chrétienne en Indonésie. Néanmoins, il ne faut pas cacher, il y a une loi sur la construction des lieux de culte, ce qui est normal, qui a été renforcée par un décret en 2006 et qui rend concrètement extrêmement difficile pour ces minorités, notamment les églises chrétiennes, qui représentent 10% de la population en Indonésie, de construire les églises, les églises catholiques, les temples protestants dont ils ont besoin.
Est-ce que les chrétiens se serrent les coudes, je dirais, dans ce pays, dans cette zone du monde ?
Oui, tout à fait. Si je soulignais que l'archevêque catholique avait déclaré en chaire, effectivement, sa déception, en tout cas sa difficulté à dépasser cet immense blocage que représente cette question de la construction des lieux de culte, c'est parce que le lendemain, le jour de Noël, deux congrégations protestantes se sont réunies devant le palais présidentiel, en plein air, pour un sit-in, en quelque sorte improvisé, pour célébrer le culte de Noël et dire bien au président de la République la difficulté qu'il rencontrait. Ce sont deux communautés qui, depuis des années, sont en butte à des difficultés. Des décisions de justice ont été rendues en leur faveur et elles ne sont pas appliquées parce que localement, des groupuscules islamistes font le coup de main contre eux pour les empêcher de construire ces lieux de culte que pourtant la justice leur a donné l'autorisation de construire.
On peut donc dire que les difficultés ne sont pas orchestrées en haut lieu politiquement, mais sont plutôt la conséquence peut-être de difficultés au niveau local.
Elles sont la conséquence, c'est vrai, d'une certaine islamisation de la vie sociale, c'est évident, mais en même temps, ce que reprochent les responsables chrétiens, mais pas uniquement eux, de nombreux musulmans également en Indonésie, reprochent cela aux autorités, c'est-à-dire au gouvernement. Ce gouvernement, en la personne du président Susilo Bambang Yudhoyono, ne fait rien effectivement pour se dresser, pour réagir plutôt contre ce diktat imposé dans la rue par ces islamistes. Autrement dit, il y a une faiblesse là du pouvoir politique qui renonce finalement à imposer l'application de décisions de justice, qui renonce à imposer ce que le droit normalement permet aux minorités religieuses en Indonésie. Et c'est ce que les chrétiens reprochent le plus actuellement aux dirigeants.
C'était Régis Anouilh, rédacteur en chef d'Église d'Asie. En 2012, de nombreux pays d'Europe de l'Est ont célébré le 20e anniversaire de leur rapport diplomatique avec le Saint-Siège. Slovénie, Croatie, Bélarus, Ukraine, des pays qui se sont libérés il y a 20 ans justement du joug communiste. Le quotidien des évêques italiens, l'Avenire, revient sur cette période de l'histoire dans un long entretien avec le doyen du Sacré Collège, le cardinal Angelo Sodano, qui était secrétaire d'État pendant le pontificat de Jean-Paul II, Bernard de Cotigny.
La chute du mur de Berlin en 1989 et le vent de liberté qui soufflait sur l'Europe de l'Est ont permis, rappelle le cardinal Sodano, le développement de contacts informels longs et patients qui ont abouti en 1992 à l'établissement de rapports diplomatiques. Convaincu avec Jean-Paul II que l'Europe devait respirer avec ses deux poumons, le Saint-Siège s'est efforcé de favoriser le développement matériel et spirituel de cette région du monde et d'obtenir le respect de la liberté religieuse. L'Église de Rome jouissait d'un certain prestige auprès des nouvelles classes politiques car elle avait contribué à la chute des régimes communistes. Entre 1989 et 1992, le Saint-Siège a établi des rapports diplomatiques avec 28 nouveaux États, dont 12 issus de la dissolution de l'Union soviétique. Aujourd'hui, le Saint-Siège a des rapports réguliers avec la totalité des 47 États membres du Conseil de l'Europe, dont font également partie la Turquie et le Kazakhstan, où la petite minorité chrétienne ne représente que 2% de la population. Dans cet entretien, le cardinal Sodano défend la décision du Saint-Siège de reconnaître avant tout le monde la Croatie, une reconnaissance qui suscitait à l'époque une vive polémique, certains accusant le Saint-Siège d'exacerber la guerre dans les Balkans. Pour le cardinal Sodano, le Saint-Siège n'est pas pacifiste à tout prix, mais son action a toujours un but pacificateur.
Une fois n'est pas coutume, le livre pour Dieu de cette semaine est un livre pour enfants au titre évocateur « Je cherche les clés du paradis ». L'héroïne de cette histoire est une maison qui contient des trésors, abrite des mystères et protège ses enfants, une sorte de paradis. Un jour surviennent des inconnus, on parle de déménagement. La maison doit être vendue et la petite fille se demande comment elle pourra survivre. Alors sa mère lui dit « Il y a deux sortes de gens dans la vie, ceux qui ont un paradis perdu et ceux qui n'en ont pas ». Elle comprend que ceux qui gardent dans un coin de leur cœur leur paradis perdu sauront toujours faire face aux aléas de l'existence. Florence Hirsch, l'auteur de cette magnifique histoire, répond aux questions de Catherine Aubin.
Florence Hirsch, avec vous, nous présentons un livre pour enfants dont le titre est « Je cherche les clés du paradis ». Florence Hirsch, pourquoi ce titre et quelle est l'histoire de ce livre ?
C'est un livre qui raconte l'histoire d'une petite fille dans une famille de trois filles qui est un jour confrontée à la nécessité de déménager. Alors ça paraît très banal comme ça, et d'ailleurs ça l'est au fond. Simplement pour elle, c'est l'histoire de sa vie parce qu'elle a vécu ses premières années dans cette maison qui n'est pas une maison ordinaire, c'est une maison de famille. Donc, comme toutes les maisons de famille, elle est dépositaire de couches et de couches de mémoire, en l'occurrence trois ou quatre générations. Cette mémoire est à la fois très heureuse et puis un peu tragique parce que la famille a traversé la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, avec des drames et puis il y a eu aussi des histoires d'exil, etc. Tout ça se retrouve dans l'histoire, mais d'une façon que j'ai voulu très légère à travers des symboles. Tout est suggéré plutôt que vraiment dit dans l'histoire. Et donc l'histoire elle-même, c'est juste la perte de cette maison qui au fond est l'héroïne de l'histoire, mais qu'il va falloir quitter. Donc c'est en fait une histoire de deuil.
Et pourtant le titre est un titre au présent, « Je cherche les clés du paradis ». Alors de quel paradis s'agit-il ? De quelle maison s'agit-il, Florence Hirsch ?
Alors le paradis, le plus immédiat dans l'histoire, c'est bien sûr cette maison dont on peut se dire que symboliquement, l'enfant ne va pas cesser de la chercher tout au long de sa vie. Et puis en fait, comme cette maison lui est arrachée, ou comme elle doit en tout cas s'en détacher, elle va peu à peu, dans le livre, on chemine vers une conclusion qui est que, au fond, quand on a eu une enfance heureuse, extrêmement stable et solide, c'est comme un socle de bonheur pour tout le reste de l'existence, et elle pourra toujours revenir y puiser comme à une source. Mais il y a aussi une autre idée qui est qu'il y a une vie du passé qui persiste en nous.
La vie du passé qui persiste en nous, vous commencez d'ailleurs avec cette phrase dans ce livre.
Oui, et puis aussi l'idée qu'il y a des gens qui ont un paradis perdu et d'autres qui n'en ont pas. Et donc des gens qui vont passer leur vie à chercher ce paradis. C'est pour ça que la phrase est au présent, parce que effectivement la quête est infinie, mais l'idée de transmettre à des enfants, l'idée que justement la perte, le deuil, l'arrachement ne sont pas des choses définitives, parce que la vraie richesse est celle qui s'est cristallisée en eux-mêmes. Cette richesse-là, ils l'auront toujours. Ils auront, comment dire, la certitude que justement le vrai bonheur son mélange existe. Je pense que ça leur donne, oui, encore une fois, une espèce de socle de joie et de force dans lequel ils pourront puiser toute leur vie.
Florence Hirsch, je pense à ceux qui n'ont pas eu un château, une grande maison dans leur enfance et qui pourtant ont une source en eux, un paradis.
Oui. Oui, alors ça, vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus, parce qu'en fait, elle dit que l'attachement qu'elle porte à sa maison, n'importe quel petit Indien, par exemple, pourrait le ressentir pour son tipi, elle dit ça, c'est juste un attachement sentimental qui n'a au fond pas grand-chose à voir avec la beauté extérieure. Et d'ailleurs, quand je suis allée présenter ce livre, je me souviens, c'était devant une classe à Bruxelles, il y a une petite fille qui me dit « Oh, au fond, tu parles de l'attachement que tu avais pour ta maison, mais moi, si je perdais mon doudou demain, je pourrais écrire la même histoire. »
Qu'est-ce que vous aimeriez que vos enfants ou que vos neveux retiennent de ce livre ?
C'est un peu banal de le dire comme ça, je pense que c'est beaucoup mieux suggéré dans le livre, mais que la vraie force est en eux, au fond.
Livre pour Dieu, une rubrique hebdomadaire réalisée par Catherine Aubin. Et c'est l'heure de retrouver le père Pascal Montavi pour le commentaire de l'évangile de ce dimanche 30 décembre, fête de la Sainte Famille. Et l'évangile qui nous est proposé est tiré de Saint Luc, chapitre 2, versets 41 à 52. Jésus a 12 ans. Après l'avoir cherché pendant 3 jours, ses parents le trouvent dans le temple de Jérusalem, assis au milieu des docteurs de la loi.
L'évangile proclamé pour cette fête nous montre Jésus, à 12 ans, perdu puis retrouvé par ses parents dans le temple. Voyons ce que ce passage, qui met en scène toute la Sainte Famille, nous enseigne. En premier lieu, Jésus, Marie et Joseph se rendent à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Il s'agit là de l'un des 3 pèlerinages obligatoires pour tout homme en Israël. La démarche de pèlerinage est fondamentale dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dans les Évangiles, elle signifie la condition même du disciple de Jésus à l'image de son maître. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. Il s'agit donc de laisser son confort quotidien pour aller vers Jésus. La fête de ce jour nous rappelle l'importance de faire un pèlerinage en famille. Aller en famille dans un haut lieu de la chrétienté, dans un lieu d'apparition, permet de se recentrer sur l'essentiel et de recevoir grâce et bénédiction de la part de notre Seigneur. Ensuite, l'exemple de Marie et Joseph mérite d'être médité. Ils cherchent leur enfant tout angoissé. Le texte grec dit même qu'ils le cherchent au dunomenoi, c'est-à-dire comme en agonie. Marie et Joseph nous enseignent qu'être choisi par Dieu, obéir à Dieu, ne préserve pas de la souffrance et de l'incompréhension. Marie aurait pu se dire « Un ange m'est apparu et j'ai eu un enfant alors même que je suis vierge. Pourquoi dois-je maintenant partir à sa recherche tout angoissé ?» Joseph aurait pu se joindre à Marie en disant que lui aussi a eu la visite d'un ange pour lui dire de prendre Marie chez lui. Mais Marie et Joseph ne se sont pas rebellés. Ils ont accepté cette agonie, tout comme ils ont accepté ce drame qu'est le massacre des saints innocents ou encore le fait de devoir fuir son propre pays pour se réfugier en Égypte. À travers leurs souffrances, ils ont progressivement découvert le don du Père qui envoie son Fils pour l'humanité. Enfin, Jésus nous montre le chemin de l'obéissance. Tout d'abord, il obéit à son Père du ciel. Il n'est pas venu pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi il reste au temple, pour être aux affaires de son Père et enseigner les docteurs de la loi. Ainsi, Jésus annonce déjà ce que sera sa mission future. Il est venu apporter le message du salut par son enseignement. Plus tard, il complétera et accomplira ce message en mourant sur la croix. Jésus est aussi obéissant à Marie et à Joseph. Il leur est soumis. Il est aussi dit que Jésus grandit en sagesse, en taille et en grâce. C'est intéressant de remarquer que ces 2 versets se suivent comme si la soumission de Jésus allait de pair avec sa croissance. En ce jour où nous fêtons ensemble Marie, Joseph et Jésus, prions pour nos familles. ceux qui souffrent et ceux qui sont loin du Seigneur, afin que, comme la Sainte Famille, nous acceptions tous la volonté du Seigneur, que nous sachions le suivre, même lorsque l'angoisse nous étreint.
Et c'est sur le commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook. Bon dimanche à tous.